Oui, je vais présenter rapidement Marilène Patoumatis. D'habitude, nous disons toujours qu'on est ravis de recevoir tel ou tel invité, et on le dit pour des raisons de politesse, mais cette fois-ci, on est très content, heureux d'inviter Marilène Patoumatis, qui est directrice de recherche au CNRS, qui dirige une unité de recherche de paléozoologie, et qui a fait des études, et c'est voilà pourquoi on est particulièrement ravis de la recevoir, qui a fait des études de chimie d'abord, de géologie après, c'est-à-dire quel rapport avec les sciences sociales. Et ensuite, entre 81 et 84, je crois, tu es passé du Pitec à l'Anthrope, pour parler comme le roi Gourand, et tu as fait un DEA, une thèse de préhistoire en réalité. Après avoir fait 3 mois de terrain au Botswana, chez les Bushmen du Botswana. Donc, voilà une trajectoire qui nous intéresse particulièrement.
Je ne vois pas, je ne vois pas.
Dures vers les sciences humaines et sociales. Alors, Marilène Patoumatis, en dehors du fait d'être membre du conseil scientifique, vice-président du conseil scientifique, du musée de l'homme, enfin de l'âme. Il y a des gens qui parlent à côté de moi, des jeunes. Plus exactement, du muséum des sciences naturelles. Elle travaille au Trocadéro, au musée de l'homme, qui a été rénové, qui est devenu beaucoup plus ouvert à l'ethnologie contemporaine et beaucoup moins sociobiologie évolutionniste darwinienne. Elle a écrit plusieurs ouvrages, dont un excellent ouvrage duquel nous reparlerons sans doute après la pause, donc pendant le débat, mais dont elle va sans doute vous parler aussi, sur Néandertal, une autre humanité. Et elle a également travaillé sur l'alimentation, les mangeurs de viande. Elle a écrit beaucoup de livres aussi, plusieurs ouvrages de vulgarisation, y compris en direction des enfants. Donc voilà, c'est quelqu'un qui saura, j'en suis certain, nous parler. Et je lui laisse la parole, sauf si Stéphane veut compléter ce que je viens de dire.
Bonjour à tous. Je suis absolument ravie d'être à Caen. En plus, j'avais pas eu la chance encore de venir visiter cette ville que je trouvais vraiment très agréable, et en plus je trouve que la fac est extrêmement bien située. Et donc là, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un petit peu de cette violence, et notamment de ses origines, c'est très, très, très à la mode. Alors, comme on est entre nous, je vais vous dire pourquoi j'ai écrit un livre sur ça et pourquoi je me suis intéressée à cette question. Comme on vous l'a dit, moi je suis préhistorienne, donc je travaille surtout les origines des comportements de nos prédécesseurs, les Néandertaliens et les premiers hommes modernes. Et je travaille beaucoup en Europe orientale, jusqu'en Ouzbékistan et en Crimée. Enfin, maintenant, j'y vais plus. Hein. Merci, Poutine. Et donc, pourquoi ça m'a intéressée ? Parce que je ne sais pas si vous avez sûrement entendu souvent dire « Oui, de toute façon, on n'y peut rien. La violence, c'est en nous, c'est ancestral. » Voilà, on ne peut rien faire, on pense un grand soupir. Et donc, ça a toujours été, les hommes ont toujours été violents. Alors, à un moment donné, quand on est scientifique, c'est un peu agaçant, parce que sur quoi se base-t-on pour dire ça? Et travaillons sur des sites archéologiques, donc sur du matériel, parce que, bon, c'est très important, bien sûr, la réflexion, les théories, la formulation de concepts, mais il faut partir de faits, surtout dans notre domaine. Sinon, après, on fait du roman préhistorique, on ne fait pas de préhistoire. Donc, il faut partir des faits archéologiques, et c'est ce que j'ai essayé de faire, puisque j'ai eu la chance de voir beaucoup de matériel dans ma vie à travers le monde, et de matériel ancien. Et donc, en fin de compte, j'ai été recherchée dans ces documents sortis de terre. Alors, pour ces périodes lointaines, quelles sont les preuves? Comment mettre en évidence la violence? C'est très difficile. Donc, il faut essayer de réfléchir et de se dire sur quoi on peut mettre en évidence cette violence, en tout cas montrer qu'elle a existé. Et donc, on se base sur plusieurs critères que je vous ai ici résumés, qui sont notamment, évidemment, la première chose, c'est sur quand on trouve des restes humains, de voir si sur ces restes humains, il y a des marques de violence, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des impacts de choc à la tête, est-ce qu'il y a des impacts de projectiles, Quelles sont les preuves? Est-ce qu'on a des preuves de décapitation, etc. Donc, on regarde tout ça. Il y a des preuves aussi qui sont des preuves indirectes, c'est-à-dire sur l'art pariétal, sur l'art des parois. Donc, d'aller voir si est-ce qu'il y a des représentations de scènes de guerre, est-ce qu'il y a des représentations de violence. Et donc, c'est un peu tout ça. Évidemment, le dernier point important, c'est la présence d'armes de guerre. Mais je peux vous dire tout de suite que c'est extrêmement compliqué pour toute cette période ancienne dont on va parler aujourd'hui ensemble, parce que les armes de chasse et les armes de guerre, au départ, sont quasiment identiques. Et je peux faire d'une arme de chasse une arme de guerre, hein, que je tire sur un animal ou que je tire sur l'homme qui est un animal. Donc, je peux me servir du même arme, hein, c'est-à-dire un projectile, une sagaie. Peut tuer l'un ou l'autre. Donc pour nous, c'est très difficile. Et c'est vrai que c'est un marqueur important, l'arrivée, je vous montrerai tout à l'heure en fin de l'intervention, c'est important l'arrivée des vraies armes de guerre. Parce que là, on passe dans autre chose, hein. C'est-à-dire que ça devient une institution et qu'on fait des stratégies de guerre et des armes de guerre. Et là, on va voir que ça existe, l'arme de guerre. Alors, dans ma réflexion, au départ, j'étais extrêmement étonnée parce que je ne m'attendais pas à ça, à trouver ça. Je pensais que j'avais dans la tête que de toute façon, il n'y avait pas énormément de traces de cette violence. Mais j'avais cette idée que peut-être vous avez aussi de dire, en fin de compte, les premières fois on va se taper dessus, ben c'est pour prendre quelque chose que l'autre n'a pas, hein, ce qu'on n'a pas. On va taper sur l'autre parce qu'on veut lui prendre quelque chose qu'on n'a pas. Et en fin de compte, c'est absolument pas ça. Les premières traces de violence sont des traces qui sont liées à un rite, un rituel, extrêmement important dans ces époques-là et même plus tardivement. Parce qu'on ne veut pas en parler, mais c'est quelque chose qui a duré pendant toute la période historique, c'est le cannibalisme. Alors ce cannibalisme, ça c'était très intéressant de voir que ces plus anciennes traces, et les traces même les plus fréquentes, où on a quelques traces comme ça de violence, c'était dans ce contexte-là, qui est quand même un contexte entre guillemets sacré. C'est-à-dire que le cannibalisme, à part le cannibalisme de survie, où actuellement, malheureusement, le cannibalisme de terreur, voire de guerre, hein, on se sert actuellement du cannibalisme, malheureusement dans certains pays encore actuellement, pour faire peur. Hein. Donc c'est un crime de guerre, d'ailleurs, maintenant le cannibalisme, mais c'est pour faire peur. Mais en dehors de ces cas et les cas pathologiques, sinon souvent c'est un vrai rituel, c'est très compliqué, c'est très complexe, je ne vais pas développer ça, ça vaudrait carrément une heure, voire plus de cours. Mais c'est quelque chose qui est notamment divisé en deux grandes parties, c'est-à-dire il y a un exocannibalisme, je vais tuer un étranger à mon groupe, à ma famille, à mon groupe, et puis j'ai l'endocannibalisme, c'est-à-dire que là, ben, je vais manger un bout de ma grand-mère. Voilà. Et l'endocannibalisme est un rite funéraire. Et il a été extrêmement pratiqué pendant très longtemps, il n'y a encore pas longtemps, on a mis en évidence que cette pratique existait, hein, avec la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Quand on a mis en évidence cette maladie, on s'est aperçu qu'en fin de compte, il se passait quelque chose parce qu'on trouvait cette maladie et normalement, elle était provoquée par la consommation notamment de cervelle et d'êtres humains avec les prions caractéristiques, donc ça venait forcément d'êtres humains. Bref, et on a mis en évidence qu'il y avait encore cette pratique de l'endocannibalisme dans les pays, notamment en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, c'est quelque chose qui a duré. Et nous avons, dans ces contextes très anciens, nous avons ces traces donc, de cannibalisme. Et avec ces deux types de cannibalisme qu'on essaye de mettre en évidence, qui n'est pas toujours évident. Alors, comment séparer, mettre en évidence dans les fouilles archéologiques, dans notre matériel, le fait que ça soit l'endocannibalisme ou l'exo? L'endo, on tue rarement sa grand-mère pour la manger, enfin, en règle générale. Donc, on n'a pas de traces de violence sur les cadavres qui ont été consommés dans un rite d'endocannibalisme, un rituel funéraire. Par contre, dans un rituel d'exocannibalisme, c'est-à-dire qu'on va manger un étranger, souvent, peut-être c'est par représailles ou pour des rites spécifiques, et là, on va avoir une trace de violence, c'est-à-dire qu'on va tuer cette personne, la sacrifier, c'est une victime, pour la manger. Donc là, on a des traces de violence. Alors là aussi, c'est pas évident. Et on essaie donc de trouver ces traces. Et en fin de compte, il y en a relativement peu. Hein. Bon, ça fait pas mal, mais vous savez, c'est quand même... Là, je vous parle, moi, sur, il y a très longtemps, sur 800 000 ans. Là, on va parcourir ensemble 800 000 ans. Hein. Et donc, en fin de compte, les premières traces sont des traces qu'on a retrouvées actuellement en Espagne. C'est les plus anciennes. Et donc, ce sont sur des hominidés qui étaient les premiers en Europe, du côté occidental, qu'on appelait Homo antecessor, et qui étaient les premiers Européens, et qui ont donné l'Homo heidelbergensis, qui est l'ancêtre des hommes de Néandertal. Donc là, on est dans un contexte vraiment européen, 800 000 ans. Et là, on a quand même une preuve tangible, puisque là, comme je vous l'ai marqué ici, c'est 6 individus. Et pourquoi on pense que c'est plutôt l'exocannibalisme? Parce qu'on a des traces de décapitation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a séparé le crâne du reste du corps et on le voit très bien quand on analyse de près. On fait un peu comme les médecins légistes. Et on a donc ces marques, on a enlevé la tête, mais du vivant. C'est-à-dire qu'on a séparé. Voilà. Alors, donc, ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que dans ces cannibalismes sacrificiels, rituels, mais d'exocannibalisme plutôt, on est plutôt dans un acte de sacrifice et de consommation par toute la communauté pour entériner, valoriser ce sacrifice. Et là, ce qui est intéressant, façon de parler, c'est de voir que la plupart sont toujours très jeunes. Il y a une préférence quand même pour la consommation d'adolescents, d'enfants ou d'adolescents. Et c'est pas une question de goût, hein, c'est pas parce que c'est plus tendre, tout ça, non, parce que j'ai entendu ça, non, faut pas. On n'est pas dans le gustatif. C'est intéressant parce qu'en fin de compte, ce sont des petits groupes. Là, je vais vous parler surtout du paléolithique. Donc, c'est des petits groupes de chasseurs-cueilleurs, collecteurs, 30 à 50 individus. Et donc, chaque individu est important. Et un jeune, c'est un avenir aussi. Hein. Donc, quelque part, de tuer plutôt et de sacrifier plutôt un jeune, bon, c'est très fort. Alors, malheureusement, on ne sait pas pourquoi on les a consommés. On n'a pas ce qu'on verra plus tard, c'est pas dans une représailles, c'est-à-dire qu'on n'a pas été dans un clan voisin pour tuer les manger. On est dans autre chose de plus complexe. Alors, est-ce que c'est lié à un problème de sacrifice, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si j'ose dire, et donc on va sacrifier aux esprits ou aux divinités? Toujours est-il que ça, c'est quelque chose qui apparaît, en tout cas, il y a 800 000 ans, dans un contexte particulier. Alors, donc, on a plusieurs traces, là aussi, de cannibalisme. De temps en temps, on a quand même quelque chose qui est plutôt du style alimentaire. Alors, c'est quand même de la violence, hein, le cannibalisme. Ça peut être de la violence, dans le sens où ça peut être un rite, pas du tout dans le contexte rituelique, pardon, mais dans un contexte simplement d'alimentation. Et là, on a des sites qui nous montrent que l'homme a été traité exactement comme l'animal. Moi, j'ai travaillé sur un site, voilà, ici, que vous avez à Moulin-Quercy, où, en fin de compte, quand j'ai étudié les ossements humains et les ossements de cerfs, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a découpé le cerf, l'homme comme le cerf. Et on l'a mangé tous les deux, et ça allait très bien, si j'ose dire. Donc voilà, il y a une consommation qui existe aussi, il ne faut pas se leurrer. Mais je répète, et ça c'est très important, parce qu'on a souvent utilisé le cannibalisme pour inférioriser non seulement les hommes préhistoriques, bon à la limite ce n'est pas très grave, ils sont morts il y a longtemps, mais pour inférioriser aussi ce qu'on appelait les sauvages. Hein, c'est-à-dire les peuples, chasseurs, cueilleurs, collecteurs, qui vivaient encore, et notamment ça a été très utilisé au XIXe siècle pour inférioriser ces peuples, on les traitait de cannibales, ça avait commencé même avant, hein, sous Montaigne, rappelez-vous. Mais en fin de compte, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu et extrêmement complexe, donc il faut faire bien attention. Alors, les autres traces de violence, eh ben, on n'a pas beaucoup, beaucoup. Je peux vous dire que c'est des milliers de pièces observées. Ici, vous voyez, j'ai pris un exemple simplement sur une petite période hein, qu'on appelle le paléolithique supérieur, on va dire en Europe de 43 000 jusqu'à 10 000 ans, hein, jusqu'à l'apparition du néolithique. Et là, vous voyez, c'est quasiment rien du tout. Et on a des anciennes traces. Alors, décidément, les Espagnols sont quand même très, très en avance sur beaucoup de choses. Et là, donc, nous avons, encore une fois, Atapuerca. Il faut vous dire que c'est un site exceptionnel, hein, où on a plusieurs gisements. C'est très, très vaste, c'est une sierra. Et il y a beaucoup de locus. Et donc, on a, depuis 1,2 million, on va dire, c'est vraiment le plus ancien peuplement du côté occidental de l'Europe, jusqu'à 30 000 ans, donc il y a toujours du monde dans cette sierra. Et donc c'est vraiment important. Et là, on a des traces là aussi de violence. Alors, ces traces de violence sont surtout des impacts, donc avec des choses perforantes, des projectiles. Et donc là, c'est probant, mais c'est quand même très, très peu. Donc, on est plutôt dans quelque chose qui est une violence interpersonnelle. Hein, c'est-à-dire que c'est peut-être un problème au sein du groupe, entre deux personnes. Voilà, ça a mal tourné. Et si je vous ai presque tout mis, donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup. Hein. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que beaucoup de ces blessures sont cicatrisées. C'est-à-dire qu'on n'a pas achevé la personne qui a été agressée. Alors, je vous passe tout le travail, parce que pour nous, c'est important pour que nos travaux soient validés. Il y a toute une recherche scientifique à faire. C'est toute une étude qu'on appelle, un mot un peu barbare, taphonomie. Parce que là aussi, il faut bien étudier les traces, les marques laissées sur les ossements, et pas les confondre. Hein, il y a eu beaucoup de choses dans le passé, des confusions. Certains voyaient un trou, ils pensaient que c'est un trou qui avait été fait au moment de... Ben voilà, au moment de où ces hommes vivaient, pas du tout. On voit qu'après, c'est un coup de pioche lors des fouilles, etc. Ce qu'il y a beaucoup de fouilles, c'est des fouilles très anciennes. Bref, il y a toute une analyse. C'est pour ça qu'aussi, par rapport à ce qui a pu être dit il y a peut-être 20 ans, on en a moins, alors qu'on a beaucoup plus de fossiles. Hein, on a des milliers maintenant de fossiles. Parce que aussi, on est passé par ce filtre hein, de bien séparer ce qui est dû vraiment à l'homme et au reste. Parce qu'il y a aussi une deuxième chose, c'est que lorsque nous mettons d'une façon évidente, on est vraiment la marque soit d'un choc à la tête, soit d'un impact d'un projectile, ça peut être aussi une autre interprétation. Je prends par exemple ici les blessures à la tête. Surtout que nous avons beaucoup de blessures qui sont cicatrisées. Blessures à la tête, vous vivez dans un abri sous roche ou dans une grotte, voilà, vous êtes à moitié ensommeillé, vous vous levez d'un seul coup, boum, et vous tapez votre tête. Hein. Donc, je veux dire, un choc, on va traduire, on va voir que c'est un choc. Mais après, les causes peuvent être différentes. Donc, il faut aller plus loin dans l'analyse pour savoir quelle est la cause. Et malheureusement, des fois, bon, on peut aller que choc à la tête. On ne peut pas toujours mettre en évidence. Bon, là, on a pu un Saint-Césaire, par exemple, que c'était un objet contondant. Mais c'est, des fois, on ne peut pas trancher. Donc, ça peut être aussi simplement un accident. De même que pour les impacts de projectiles, on n'en a pas non plus beaucoup. Et là aussi se pose la question de ces impacts de projectiles. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns. Je crois que j'ai mis sur l'autre. Non, c'est après. Et ces impacts de projectiles aussi, il faut vous rappeler les contextes dans lesquels vivent ces hommes. Donc, ce sont des peuples chasseurs-cueilleurs, je le répète. Une grande partie, surtout là en Europe ou au Proche-Orient, donc on est dans une période où ce sont des chasseurs. Ils mangent beaucoup, beaucoup de viande. Et la chasse, à cette époque-là, c'est avec des armes relativement peu efficaces, on va dire, pour être gentil. Donc, ça, c'est surtout des armes d'estoc ou d'ast. C'est-à-dire que ça demande d'aller au corps à corps pour finir l'animal, etc. Donc, on a beaucoup de blessures de chasse. Et là, on s'est posé la question pour l'envoi de ces projectiles. Donc, c'est des sagaies hein, qu'on envoie. Alors, soit on envoie comme ça à la masse, soit on l'envoie au propulseur. Et donc, ces sagaies, là aussi, lorsqu'on fait, on a reconstitué ces chasses à ces époques-là, en fin de compte, pour avoir un succès, il faut être à plusieurs et lancer donc une pluie de projectiles. Hein, c'est-à-dire qu'avec son propulseur, on va lancer des sagaies, plein de sagaies. Et donc là, il peut arriver un accident de chasse aussi. C'est-à-dire que là, même si nous mettons en évidence l'impact d'un projectile, c'est très difficile. Et alors, d'autant plus lorsque c'est cicatrisé. C'est-à-dire que, bon, on a blessé la personne, et puis, bon, si c'était vraiment un ennemi, supposons, si on prend ce cas de... Eh ben, je vois pas pourquoi on le laisserait vivant, quand même. Et là, quasiment tous sont cicatrisés. Alors, autre chose aussi qui peut témoigner, peut-être, de la violence entre personnes, c'est qu'on a constaté l'utilisation d'ossements humains pour faire des objets domestiques, par exemple, dans des fémurs humains, on a pris des fragments d'os pour faire des retouchoirs, hein, pour retoucher les silex. On a fait ici donc, ces espèces de récipients. Et là, tout de suite, évidemment, ça a enflammé un peu les esprits. Parce que quand on voit ça, tout de suite, on a eu l'interprétation en disant ça, c'est des bols dans lesquels on buvait, on faisait des libations dans ces crânes humains et tout. Et c'était basé sur, en fin de compte, la vision qu'on a de certains peuples qui étaient des peuples, notamment des Germains, qui buvaient dans le crâne de leur ennemi. Alors tout de suite, il y a eu cette interprétation, hein, ce lien. Bon, il faut être là aussi, il faut faire très attention, parce que le fait de récupérer le crâne ou le garder tout en partie, c'est aussi lié des fois à des rituels, notamment le culte des ancêtres qui conserve les crânes humains et des fois qui utilise donc les crânes des ancêtres pour justement lors de rituels pour boire des boissons tout à fait spécifiques. Donc voilà un petit peu ce qu'on a. Alors on est donc dans ce contexte, hein, de blessures, très peu, et en plus quand même voilà, qui témoigne plutôt de problèmes de violence, d'actes de violence interpersonnelle. Alors quelle est les premières traces? Alors on a beaucoup écrit et beaucoup discuté sur ce site qui s'appelle 117, hein, c'est un nom comme ça, et alors qu'il se trouve donc en Égypte, à la frontière nord du Soudan, où là on a trouvé. Alors je vous demande de regarder les fouilles, sont des fouilles quand même des années 60. C'est-à-dire que maintenant, on ne fait pas tout à fait les fouilles de la même façon. Je le dis parce que ça avait été important dans mon argumentaire. Et là, donc, a été mis en évidence la présence de nombreux squelettes, etc. Et nous sommes encore au Paléolithique, nous sommes encore dans cette période donc, d'économie de prédation. Hein. On n'est pas avec les néolithiques, on est avec les paléolithiques. Ça, c'est sûr, les datations sont bonnes, il n'y a pas de problème. Et donc, on a vu ça, et l'interprétation tout de suite, évidemment, ça avait été dire, oh là là, nous sommes dans un charnier. Voilà, c'est ce qu'on a appelé à cette époque-là, dans les années 60, on parlait de couches de guerre. Et donc, on avait ça. Alors, quand on a repris ces études, plus tard, certains de mes collègues qui ont travaillé sur ce site et tout, ont repris, et en fin de compte, ils ont validé le fait que certains des corps présentent des pointes de flèches, tout ça, ça c'est clair. Mais par contre, ils ont remis en question la notion de couche de guerre. Pourquoi ? Ben parce qu'en fin de compte, vous savez, quand on est archéologue, quand on dégage une couche, sauf cas exceptionnel, on est dans un palacep de sol. C'est-à-dire qu'on ne dégage pas un sol d'occupation. Hein, c'est souvent plusieurs sols, plusieurs occupations qui sont tassées. Et donc là, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et donc, quand on a refait ces datations au temps de tronc, c'est-à-dire que c'est un C14, mais perfectionné, donc on s'est aperçu qu'en fin de compte, on avait quand même, vous voyez, l'écart, donc plusieurs centaines d'années entre. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait des squelettes qui étaient de 13 000 et d'autres de 14 000. Donc, en fin de compte, ce n'était pas une couche, c'était enfin une succession. C'est-à-dire que c'était un lieu où on jetait des cadavres. Voilà, c'est une espèce de cimetière, si vous voulez. Donc, ça changeait un petit peu la vision. Ce qui n'empêche qu'il y avait quand même ces marques résultant de violence. Et donc, on a beaucoup, je ne sais pas si je l'ai mis après, là. Donc, on a beaucoup discuté. Alors, le contexte est intéressant à savoir. C'est vrai que là, nous sommes... Au début, surtout l'Afrique commence avant l'Europe, avant la déclassation de l'Europe. L'Afrique commence donc là à changer aussi, à s'arédifier. À cette période-là, et là nous sommes au bord du Nil. Et donc l'hypothèse, d'après les traces de projectiles et tout, c'est que en fin de compte, ce groupe était installé à un moment donné. Malheureusement, on a un peu de mal à cerner quand. Peut-être c'est 13 000 ans. Parce que la majorité de ceux qui peignent des projectiles sont plutôt vers la date la plus récente. Et donc, étaient installés là, et en fin de compte, étaient assez bien, il y avait encore assez de verdure. Et par contre, vers l'intérieur, déjà, les terres, ça commençait à être plus désertique et moins de provisions, etc. Donc, l'hypothèse était peut-être qu'il y a un groupe de l'intérieur qui a attaqué ces groupes qui vivaient au bord du Nil. Voilà, ce sont des hypothèses. Et les personnes travaillent encore sur ça. Et un autre, alors, un peu plus récent, alors là, on passe le cap, hein, on est dans le Mésolithique, début du Néolithique. Et là, c'est au Kenya, on a trouvé ça. Et là aussi, c'est quand même quelque chose, vous voyez que ça change complètement, hein, de notre Paléolithique. Là, on est dans un autre contexte. Et là, c'était assez effrayant. Donc, quand on a vu ça, en plus, c'est récent, vous voyez, je vous l'ai mis ça, ça vient d'être publié très, très récemment, en 2016, et c'est tout neuf, au niveau de l'analyse, en tout cas. Et là, on a des choses incroyables, c'est-à-dire qu'on a des corps qui sont dans des positions attachées, etc. Donc là, on ne peut pas dire que c'était pour... qu'ils étaient en train de s'amuser. Donc là, c'est clair qu'il s'est passé quelque chose, que y a eu, ces gens ont donc été attachés avant de mourir, avant d'être tués. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Et là, c'est pareil, on est dans un contexte où c'est bizarre, parce qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout comme tout à l'heure... dans le site 117, dans un contexte où c'était un contexte d'habitat, hein, les gars vivaient là, pas du tout. Là, il n'y a rien, rien. C'est-à-dire que là, il n'y a pas un outillage, il n'y a rien, il n'y a pas encore la céramique, mais il n'y a pas d'outillage, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'ossements d'animaux, il n'y a pas ce qu'on a d'habitude dans les campements, là, il n'y a rien. Là, c'est une espèce de truc. Alors, est-ce que ce groupe, ces groupes-là qui passaient à ces endroits-là, est-ce qu'ils ont été attaqués? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il n'y a vraiment rien. Alors, ce qui est un peu gênant dans cette hypothèse d'une attaque d'un groupe par un autre groupe, c'est qu'on a, les seules choses qu'on a, c'est quelques coquillages qui sont mis sur les corps. Alors, c'est bizarre, parce qu'on se dit comme une espèce d'offrande, de rituel, on sait pas. Et donc, c'est intéressant de voir, alors, est-ce que là... aussi, parce qu'on a un télescopage sur 14 individus, ils n'ont peut-être pas été tués ensemble, mais peut-être sacrifiés à différents moments. Parce que là, c'est vrai qu'on est vraiment dans des positions sacrificielles. Alors, est-ce que c'était un lieu de sacrifice? C'est pour ça qu'il y a aussi ce coquillage. Donc, la question se pose, mais toujours est-il que là, on a quand même des traces de violence. Mais toujours est-il. Et voilà, je vous ai mis quelques photos. Alors, vous voyez, les mains attachées, tout ça. Bon, c'est clair que là, il se passe quelque chose, hein. Alors, au niveau de cette période ancienne, voilà ce qu'il y a. Donc, très peu de choses. Les choses vraiment les plus nombreuses, si je puis dire, ça reste modeste, c'est quand même lié à des rituels sacrificiels et surtout de cannibalisme. Et alors, donc, la question de se dire, mais pourquoi là, au paléolithique, j'ai quand même relativement peu de traces, en tout cas, peu de marques de violence. Alors déjà, c'est la première chose, c'est la démographie. Alors, première chose, évidemment, vous vous en doutez, nous sommes des archéologues, nous travaillons sur ce qui se fossilise, et ce qui se fossilise, bon, nous, on n'a que les os. Hein. Alors, donc, on peut tuer quelqu'un sans que, pour ça, qu'il y ait une preuve sur les os, ça, c'est clair aussi. Hein. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez, on fait avec ce qu'on a mais toujours est-il que, quand même, alors que vous allez voir, là, au néolithique, tout va changer, alors là, on va en avoir des squelettes et des morts violentes, donc, je veux dire... Là, ce qui est intéressant, c'est de comparer l'un par rapport à l'autre. Et donc, on a une nette augmentation, je vais vous en parler, avec le néolithique. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas dans l'absolu, parce qu'évidemment, au niveau des traces, mais c'est de comparer une période à l'autre. Et bien sûr, en faisant une règle de 3, au niveau de la démographie. Alors, pourquoi ce paléolithique, il n'y a quasiment rien? Alors, il faut réfléchir, et on essaie de mettre en évidence tout ça. Déjà, il faut savoir que c'est une faible démographie. Il est calculé, entre guillemets, parce que moi, je pense qu'on ne peut pas le calculer. C'est très difficile de faire la démographie de ces périodes. Mais peut-être que pour toute l'Europe, c'était peut-être 3-4 millions de l'Atlantique à l'Oural. Donc, il y a de l'espace. Hein. Donc, je pense que c'est un phénomène aussi important, c'est que nous sommes dans une situation où les personnes vivent au sein de petits groupes très dispersés, mais surtout sur un grand territoire. Donc la démographie est très faible, donc il n'y a pas cette pression démographique qui est si importante. Hein, c'est vraiment quelque chose on sait très bien que c'est... Dès qu'on a un territoire qui se rétrécit, on sait très bien que la violence augmente. Et ça, c'est très important comme donnée. Pour moi, c'est essentiel. La démographie, c'est... Vraiment, des fois, ça a été négligé, mais je pense que c'est un facteur extrêmement important. Hein, d'abord, qu'on prenne même tous les animaux. Hein. On réduit un territoire pour un animal, il y a deux choses qu'il fait, soit ils se battent ensemble, soit ils ne se reproduisent plus. Hein, les éléphants, par exemple, ne se reproduisent plus. Donc on sent qu'il y a un stress très fort. Donc tout ça est défavorable, en tout cas, au groupe. Et donc ça, c'est quelque chose d'important, faible démographie. Autre chose aussi, pourquoi il y aurait de la violence, c'est quand on n'a pas assez de nourriture. Ça aussi, ça peut entraîner de la violence. Et là, ce n'est pas le cas. Je voudrais vous enlever de la tête l'image qu'à ces périodes-là, c'est une image de pénurie. Pas du tout. Là, nous sommes dans un même, pendant les périodes glaciaires, nous avons des faunes, des grands troupeaux. Nous avons des troupeaux de bisons, des troupeaux de rennes, des troupeaux de chevaux. Nous avons des animaux qui s'appellent les mammouths, qui mangent 180 kilos d'herbe par jour. Donc, évitez de me mettre un homme préhistorique dans la toundra jolie. Parce que le mammouth, là, il est au régime. Donc, non, c'est pas la survie. Ils ont vécu, d'abord, on est là. Ça fait plus de 200 000 ans pour l'espèce sapiens. Donc, vous voyez, ils ont bien vécu. Et donc, ça, c'est important à voir. Il n'y a pas de problème de pénurie. Ça, c'est une vision dans les romans préhistoriques. Pas du tout. Donc, il y a abondance, il y a des grands troupeaux. C'est des espaces typiques, c'est très ouvert. Il y a beaucoup, beaucoup de biomasse. Donc, il n'y a pas ce problème de nourriture. Donc là aussi, ça enlève un des facteurs qui provoque la violence. C'est clair que si vous avez à manger, ça simplifie. Et donc ça, c'est important. Et en plus, elle est diversifiée. Bon. Autre chose aussi, chez ces peuples-là, il n'y a pas de bien. Chez tous les peuples nomades, vous savez, il y a très peu de biens matériels, parce que vous ne transportez que ce que vous pouvez transporter. Donc sinon, vous laissez sur place des choses, peut-être, c'est possible, et puis revenir en les... Mais en tout cas, il y a très peu de biens. Donc là aussi, c'est un des facteurs qui peut, là aussi, limiter la violence, puisque de toute façon, il n'y a pas de biens, on n'est pas dans cette notion de biens, donc on ne va pas prendre, si l'autre il n'a rien, on ne va pas lui prendre rien. Et autre chose aussi, au niveau de la société, du type de société, pour que ce type de société fonctionne, on les connaît bien, puisque nous avons eu des peuples qui sont avec ce type d'économie de prédation, de chasseurs, cueilleurs, collecteurs, qui sont venus jusqu'à nous, il n'y a pas très longtemps encore, maintenant ils sont plutôt en voie d'extinction évidemment, et donc qui vivaient, donc on connaît bien, et puis même tous les ethnologues qui ont travaillé au XXe siècle sur ces sociétés, ont bien mis en évidence donc comment fonctionne ce type de société, comment elle peut fonctionner. Elle ne peut fonctionner que sur, premièrement, peu de personnes, c'est-à-dire que ce sont des groupes au maximum de 50 personnes qui peuvent se réunir, bien entendu, et qui ont un système, un nexus, un système un réseau d'échanges extrêmement développé, pour la reproduction notamment. Et puis, aussi, qui vit sur la coopération, pour aller à la chasse, etc. Là aussi, ça demande de la coopération, la solidarité, le partage du gibier. Ça, c'est très important. Quand on voit tous les rites de chasse, le partage de la proie, on voit que c'est un système qui est bien, qui permet en tout cas une structuration de la société. Donc voilà un petit peu ces raisons de pourquoi si peu de violence. Alors, donc on va maintenant avancer et voir les causes de cette apparition de la guerre, de la violence dite de masse, quoi. Alors, donc, nous avons une période qui est ce qu'on appelle une période extrêmement charnière. Moi, je ne parle pas de terme de révolution néolithique, parce que la révolution, c'est quand même brutal, alors que cette révolution s'est passée sur plusieurs millénaires. Donc, c'est une révolution un peu longue, mais c'est pour ça que le terme, des fois, est un peu mal choisi. Mais, en tout cas, c'est un changement très important et radical. Mais il prend un peu plus de temps qu'une révolution. Donc, là, à cette charnière, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est que déjà, on va avoir une sédentarisation des groupes. Petit à petit, on va avoir, dans certains endroits, des groupes qui étaient des chasseurs-cueilleurs-collecteurs qui vont se sédentariser. C'est-à-dire qu'au lieu de partir, de faire deux migrations dans l'année, ils vont rester sur place. Et même, alors qu'ils sont encore chasseurs-cueilleurs, ils vont commencer à se sédentariser. Ensuite, on a quelque chose qui apparaît, c'est l'apparition de l'arc. Alors, plusieurs collègues pensent que l'apparition de l'arc au Mésolithique, peut-être même c'est avant d'ailleurs, on peut discuter sur l'apparition déjà avant, au Paléolithique. Et certains de mes collègues pensent que l'apparition de l'arc, alors que c'est une arme de chasse, on chasse beaucoup les cervidés, les sangliers avec l'arc, est aussi peut-être l'apparition d'une arme de guerre, enfin le mixte, mais quand même qui sent un peu cette arme de guerre. Parce qu'on a retrouvé des pointes de flèches donc dans les squelettes, dans les nécropoles, donc on utilisait ces arcs pour tuer. Et aussi on a ces peintures rupestres donc, du Levant espagnol qui nous montrent, là j'en ai choisi une, mais il y en a plein, qui montrent pour la première fois des chasseurs qui se font face et qui sont donc en train de se battre et armés d'arcs. Alors, dans cette transition, il y a plein de changements. Et c'est extrêmement important de les avoir en tête, parce que là, ça va changer énormément. Non seulement vous allez avoir un changement de l'environnement, c'est-à-dire que nous étions, avec nos chasseurs-cueilleurs, dans un environnement de glaciation, interglaciation. Alors, c'est pas les, comme je viens de l'expliquer, hein, c'est pas les grands froids, mais enfin quand même, déjà, vous n'étiez pas... le nord de l'Europe s'arrêtait au sud des Pays-Bas, vous voyez. Donc, on était plus quand même tous plus dans le sud, parce qu'il y avait la calotte glaciaire qui descendait. Mais en dessous, donc, on était dans ça. Et petit à petit, donc, il va y avoir ce réchauffement climatique qui va entraîner l'augmentation du territoire. Donc, d'un seul coup, il va y avoir de plus en plus de territoires qui vont se libérer des glaces et donc qui vont, là aussi, permettre une installation. On va avoir donc cette sédentarisation. Et cette sédentarisation va provoquer des explosions démographiques locales. Peut-être vous le savez, les peuples sédentaires sont extrêmement plus féconds, si j'ose dire, que les peuples nomades. Et donc la sédentarité provoque toujours une augmentation de la démographie. Et là, ça va être très net. Donc on a des explosions démographiques. Et ces explosions démographiques locales sont très mauvaises pour des petits groupes. Parce que c'est ça souvent qui va provoquer des crises intérieures, des crises internes, et donc qui va provoquer de la violence. Bien sûr, ça va être le début de la domestication des plantes et puis des animaux. Donc là, l'apparition de l'agriculture et de l'élevage. Donc tout ça se passe dans ces quelques millénaires-là. L'apparition, et je vais vous montrer comment on le sait, d'une élite et des castes. Donc, vous voyez, beaucoup de choses qui apparaissent. On va avoir aussi, toujours du côté de l'aspect social, l'apparition du patriarcat. On va le développer un petit peu. Et donc, au niveau économique, avec le développement donc, de l'agriculture, de l'élevage et tout, les peuples chasseurs-cueilleurs ne stockent quasiment pas. Un petit peu, hein, pour l'hiver, on fume de la viande, etc., on sale la viande, mais on ne fait pas de vrai stockage. Les agriculteurs, eux, vont faire du vrai stockage. On va voir apparaître les silos, par exemple. Donc, ils vont avoir plus de nourriture que nécessaire. Donc, il va y avoir du surplus. Ce surplus va être stocké. Et bien entendu, là aussi, on va en rediscuter, ça va pousser certains, donc à la fois au niveau interne et à la fois au niveau externe, à de la violence. Ensuite, un peu plus tardivement, on va avoir vraiment le commerce de biens, là, parce qu'il y a du surplus, donc on va se mettre en place à la fin du néolithique du commerce du bien. Et très important et souvent négligé, nous avons aussi à ces périodes donc un changement dans les croyances. Au paléolithique, on ne peut pas savoir, nous avons nos petites Vénus, là, comme celle de Willendorf, mais on en a plein en tout genre, hein, des toutes fines, des toutes grosses, des toutes, c'est une grande variété. Hein. Et donc, mais on n'a pas de lieu de culte. C'est-à-dire qu'on a ces Vénus, c'est très intéressant, elles sont faites dans les livres de mammouth, elles sont remarquables, c'est un travail sensationnel. Et souvent, elles sont dans l'habitat, à l'entrée ou à l'extérieur, mais on n'a pas de lieu de culte. Contrairement à ce qui va se passer au néolithique avec la grande mère. Et la déesse, la grande-mère, elle va avoir des lieux de culte. Non seulement il y aura les statuettes, évidemment, mais il y aura des lieux de culte. Et ça, très souvent, elle, contrairement aux Vénus, où on peut douter sur le fait que toutes les Vénus paléolithiques soient liées à la fécondité, là, les grandes-mères sont liées à la fécondité, à un rituel lié à ce niveau-là. Et puis, plus tardivement, au moment où la guerre va exploser, nous avons là aussi un changement radical. Nous passons des divinités féminines aux divinités masculines. Voilà. Alors, donc, c'est à ces périodes fin néolithique, néolithique, donc on a une zone de période un petit peu de changement, donc de crise. On passe d'une société quand même très solidaire, très partageuse, à une société plus complexe, plus difficile. Et là, on va avoir beaucoup de soucis et on va avoir beaucoup de sacrifices humains qui vont apparaître. Donc, c'est encore de la violence, si j'ose dire, interpersonnelle, qui vont apparaître. Et à la fois dans des représentations, dans des nécropoles, on sacrifie beaucoup les femmes et les enfants, ça c'est classique. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir pourquoi il y a ces sacrifices, parce qu'il va se passer un phénomène terrible avec la domestication des animaux, et notamment la domestication du porc, parce que, et là on le sait très bien, nos collègues anthropologues qui étudient, qui font un peu la médecine, la paléopathologie, ont très bien mis en évidence la proximité des hommes avec les animaux domestiques, en particulier avec le porc. Alors là, il y a eu des épidémies terribles. Et ça, c'était terrible, parce qu'au départ, évidemment, les hommes ne comprenaient pas pourquoi d'un seul coup il y avait une épidémie. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On sacrifie. Hein. Donc on sacrifie des humains. Et donc, et là, c'est vraiment quelque chose qui marche ensemble. Hein. C'est-à-dire que pour que tout ça s'arrête, pour que cette épidémie et tout, ben, il faut, on sacrifie. Et c'est à ces périodes-là, mais enfin un peu plus tard, mais aussi qu'on on a, dans ce domaine du sacrifice, on va voir les esclaves sacrifiés. Et donc, on a des preuves à partir de, en tout cas, de 4500 ans, c'est les premières traces. On est sûr, peut-être que l'esclavage est avant, mais on est sûr que déjà, c'est à cette période. Alors, comment on le sait? C'est que nous avons des silos qui ont été utilisés comme tombes, comme sépultures. Et nous avons au milieu de la tombe un homme ou une femme, et c'est souvent un homme, un squelette, donc un corps qui est mis. Et qui, lorsqu'on fait sa paléopathologie, il allait très bien, marchait très bien, enfin il est mort, mais je veux dire, il n'y avait pas de problème d'usure spéciale de ses articulations ou autre. Et lui, bien posé, souvent en position fœtale, hein, en chien de fusil, si vous préférez, donc vraiment en position, en rituel, avec quelques ornements. Et puis jeté, on peut dire jeté, hein, ce qu'on appelle les corps rejets, c'est le terme employé par les archéologues, deux ou trois personnes, comme ça, ils sont jetés autour. Et alors eux, quand on fait leur étude, l'étude des corps, alors eux, ils sont massacrés. Hein. C'est-à-dire que les rhumatismes, les traumatismes dus à un travail très dur, etc. Donc, et on est vraiment dans ce système et qui a été expliqué donc, par l'utilisation de ces esclaves. Et donc, à partir de ces données-là, on peut en tout cas supposer qu'il y a ces esclaves. Et ça paraît un peu normal. C'est cruel ce que je vais dire, mais là, il va se poser un problème. Lorsqu'on va commencer donc, à faire, avoir cette agriculture, on va avoir des champs à cultiver. Et les groupes, au départ, émergent de ces groupes paléolithiques, donc ne sont pas nombreux, même s'il y a une explosion démographique locale, ça reste modeste. Surtout les premiers, il n'y a pas encore l'arrivée des autres néolithiques, hein, parce que la population qui va venir du Moyen-Orient et du Proche-Orient, avec ses chèvres et ses moutons et tout ça, va prendre un certain temps et tout. Et au début, on est plutôt dans un contexte de chasseurs qui se néolithisent. Et donc là, ce qui va se passer aussi, c'est qu'il va y avoir un changement radical dans la façon de vivre, parce que les champs, c'est grand, il faut du personnel. Et là, ben, autour de vous, quand vous avez enlevé les malades, les femmes enceintes, les enfants et tout, vous avez vite, ben, y a pas assez de monde, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aller demander aux voisins. Et donc, on pense qu'il y a eu un système comme ça d'échange qui sont venus travailler chez les uns. D'ailleurs, ça a perduré hein, dans certaines régions, à certaines autres périodes, d'échanger comme ça. Mais à un moment donné, ça plus suffit. Et donc, on voit très bien apparaître, en même temps que la classe des esclaves, on voit celle des guerriers. Hein. Et donc, probablement que ces esclaves sont des prisonniers de guerre et que tout ça est très, très, très lié avec notamment ce besoin de main-d'œuvre. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, au niveau sacrifice, on a des choses incroyables. Vous voyez qu'on est autre chose que dans le paléolithique. Et là, on a toujours... c'est quand même des contextes de rituels, là, hein, quand même, aussi. C'est-à-dire qu'on est... où on a des choses incroyables parce que ici, comme je vous l'ai mis, on a ces choses très particulières. Alors ça, c'est les traces de silos. Hein. Je vous disais souvent, à ces périodes-là, on va beaucoup enterrer dans les silos, des silos qui ne fonctionnent plus. Hein. Le silo, c'était les silos à céréales. Et donc là, le fait particulier, c'est que tous ces squelettes, mais avant c'était des corps, eh ben, il manquait un bras. Un bras gauche, tous les bras gauches. Alors, allez savoir pourquoi ils ont coupé le bras gauche. Mais tous ces squelettes, sur les huit, là, il manquait le bras gauche. Alors ça, c'est quelque chose, on n'a pas d'explication. Mais c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement curieux. Et on ne sait pas du tout l'expliquer. Donc, c'est plutôt dans le lien des sacrifices. Mais pourquoi cette... Donc, c'est probablement dans un rituel extrêmement complexe. Voilà. Et par contre, alors, au cours de l'âge de bronze, donc à la fin du néolithique, là, on va voir apparaître vraiment les armes de guerre, les trésors, les cachettes et tout, le culte du guerrier, les divinités masculines. Alors, justement, je parlais tout à l'heure de ce changement de divinité. Là, c'est très, très fort, donc, avec l'âge des métaux, hein, surtout l'âge du bronze, où là, on voit complètement cette déesse-mère qui est remplacée petit à petit par ces divinités masculines et qui sont violentes. Sont violentes, pourquoi ? C'est parce que c'est une divinité masculine, mais parce qu'elle porte toujours un poignard. Les cultes des déesses-mères, elles sont toujours voilà, plutôt style épi de blé, vous voyez, et eux, c'est le poignard. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que non seulement ça vient d'une divinité masculine, mais en plus c'est une divinité qui porte cette virilité, qui est notamment cet emblème du poignard, qui est l'emblème guerrier. Alors, donc, cette apparition de guerre, voilà, plusieurs hypothèses, essayer de comprendre pourquoi ça apparaît là. Alors nous, on avait déjà vu tout à l'heure pourquoi chez les chasseurs-cueilleurs qui ont une économie de prédation, on avait très très peu de choses. Alors que là, on a quelque chose qui probablement est dû à un changement extrêmement important, qui est ce changement donc, d'économie. C'est-à-dire que là, on va passer dans un autre système totalement. De la prédation, on va passer à la production. La prédation, c'est toujours, comme je le disais tout à l'heure, une quantité qui correspond aux besoins du groupe. C'est-à-dire qu'on ne va pas tuer. On n'a pas, par exemple, moi qui travaille beaucoup sur la chasse chez les Néandertaliens ou les premiers hommes modernes, on n'a pas d'abattage de masse. Hein, on n'a pas de Buffalo Bill. Là, c'est un ou deux bisons. Voilà, on a parce que c'est ce qui est nécessaire au groupe, voire à un autre groupe s'il y a des échanges, etc. Et donc, on a quelque chose voilà, de partage. Alors que là, on va avoir donc plus de nourriture que nécessaire, donc on va stocker. Et on sait très bien que ce stockage va provoquer là aussi des changements très importants, puisqu'il va y avoir non seulement du surplus, donc au niveau interne, ça peut là aussi provoquer des débats, parce que en fin de compte, à qui appartient le champ ? À celui qui cultive, à qui appartient ce qu'il y a dans les silos. Donc ça, c'est quand même une grande question. Et là, je pense que c'est source de conflits très rapidement et de conflits internes. Parce que la plupart de ce qu'on voit dans ces sites néolithiques où il y a beaucoup de massacres, ben c'est quand même lié souvent à des sacrifices et lié souvent à des règlements de compte internes. Alors comment on le sait ? Ben c'est simple, on regarde les matériels qui sont associés. Quand dans votre matériel, vous avez le même type de projectile, vous avez le même type de céramique, voilà, ce ne sont pas les étrangers qui sont venus de je ne sais où. Et ça peut arriver, c'est ce qu'on verra plus tard d'ailleurs. Parce que là, on sent que ça s'est passé d'une façon interne, donc c'était plutôt un conflit interne. Et souvent un conflit interne lié au fait qu'il y a une classe des élites qui est apparue. Et on le sait là aussi, parce que sur les peintures rupestres, justement, on va voir apparaître des figures de chef, c'est-à-dire une figure plus grosse que les autres, alors qu'on n'a jamais ça au paléolithique. Et donc, il y a tous ces changements qui vont provoquer, à mon avis, plus de conflits. C'est-à-dire que tout ce changement va provoquer plus de conflits. Et on va voir aussi, avec l'apparition donc, du stockage, du surplus, ce côté plus... de caste, on peut parler déjà à cette époque-là. Et on le sait aussi parce que d'un seul coup, contrairement à avant, on a des sépultures riches et des sépultures pauvres, sans parler des esclaves, mais là. Donc on voit très bien, alors qu'avant, au paléolithique, les sépultures, voilà, y a pas de différence. Alors que là, on a vraiment ces différences. Donc, on voit que ça a changé, que la structure sociale n'est plus la même, qu'elle ne repose plus sur les mêmes fondamentaux. Il y a ce changement. Et probablement que cette domestication des animaux ce surplus, etc., qui a modifié profondément la société de l'époque, qui a transformé cette société de chasseurs-cueilleurs en agriculteurs-pasteurs, va modifier d'une façon très importante aussi la structure sociale et, je dirais même, familiale, parce qu'au au paléolithique, on pense que c'est tout le monde va avec tout le monde, hein, c'est un intérêt, parce qu'au sein d'un groupe, bon, il ne faut pas trop Il faut quand même penser à une descendance. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va aller faire des échanges avec les extérieurs pour pouvoir se reproduire. Hein, parce que dans un petit groupe, sinon, ça tourne vite très mal hein, si on se reproduit qu'au sein de son petit groupe. Et donc, on pense que c'était voilà, un système très, très exogamique, mais très libéral. Et là, est-ce que là, parce qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas tout ça, alors que là, avec le néolithique, on va voir que ça change beaucoup. Et donc, notamment, probablement que le système familial va changer, surtout à partir de 6000 ans, 5000 ans, hein, c'est-à-dire que ça met quand même tout ça, c'est sur plusieurs millénaires. Hein. Et donc, va probablement changer parce qu'il va apparaître là aussi le fait qu'il faut bien que, s'il y a des cas, s'il y a des possesseurs de biens, eh bien, il faut qu'ils sachent à qui ils vont léguer leurs biens. Hein. Donc, je veux dire, le côté du côté du patriarcat qui va s'installer, probablement, ça prend ses origines-là. Hein. Avant, bien sûr, le patriarcat au sens romain du terme. Et donc, probablement que déjà, ça sera le statut. Nous, on pense que la division, par exemple, sexuelle du travail se met en place à cette période-là. C'est là où on va commencer à avoir la séparation entre... voilà, les femmes avec certains travaux, les hommes avec d'autres travaux, est lié notamment à cette reconnaissance de virilité, du côté plus masculin. Alors qu'au paléolithique, si je prends, on a souvent dit ça, parce qu'on a regardé les peuples chasseurs-cueilleurs subactuels, où il y a les femmes à la cueillette, les hommes à la chasse, sauf que ça, c'est très tardif. Et ça, c'est lié à une très, très belle thèse de Testard, à Alain Testard sur ça. C'est lié au problème du sang, etc. Bon, le tabou du sang, je n'ai pas le temps de développer. Et surtout, quand on examine les squelettes, moi, j'ai regardé sur les Néandertaliens. Quand on voit les Néandertaliennes et les Néandertaliens, les squelettes, en fin de compte, je peux vous dire qu'il y a toujours un des deux bras qui est plus développé que l'autre au niveau des insertions musculaires. Ça veut dire qu'elle lançait. Donc ça veut dire qu'elle a participé à la chasse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation, de division du travail en fonction du sexe, ce n'est pas sexué. Donc ça, c'est des choses intéressantes et tout ça... Alors, là, il y avait tous les faits et je voudrais vous montrer un autre aspect que j'ai développé dans mon livre. C'est aussi que je me suis dit, mais pourquoi, alors qu'il y a des faits, tout ça, qui montrent que quand même c'est relativement tardif, que ça vient plutôt dans quelque chose... lié à un changement d'économie, enfin un type d'économie, un type de société, etc. Et pourquoi c'est quand même si populaire, on va dire. Et donc j'ai essayé de voir ce qui s'est passé. Et en fin de compte, je voudrais vous expliquer un peu cette thèse, en discuter après avec vous, parce qu'il y a une double construction. Il y a une construction savante, au 19e siècle, hein, je parle. Une construction savante par les anthropologues de l'époque. Et puis après, une construction populaire. Alors, pourquoi une construction savante? Parce que le 19e siècle a beaucoup travaillé donc, sur l'émergence donc, de ces hommes, de ces ancêtres, de ces hommes préhistoriques qu'on appelait les hommes tertiaires, etc. Donc les anthropologues, une partie d'entre eux, avec les archéologues et tout, ont montré ça. Après, évidemment, que la théorie de Darwin, en 1859, se soit imposée. Et donc, dès le départ, les anthropologues, les archéologues de l'époque, les préhistoriens de l'époque, ont tout de suite montré que c'était des hommes violents, ces hommes préhistoriques. Tout de suite, ça a été... Leur idée, je pense pourquoi c'était leur idée. Parce que le 19e siècle, c'est un siècle à la fois fabuleux et à la fois terrifiant. Il a fait du bien comme il a fait extrêmement de mal. Et c'est comme vous le savez, c'est la deuxième, après le néolithique, c'est la deuxième grande révolution. C'est l'industrialisation. Donc là, c'est une révolution totale. Pendant toutes les périodes historiques jusqu'à là, c'était le néolithique. Hein. Dans les campagnes, ici, c'était comme en néolithique, c'est un tout petit peu de perfectionnement, et encore. Donc, et là, ça a été un grand, grand... Et là, alors là, on va avoir un changement, là aussi, sociétal, avec l'apparition d'une caste, qu'on va appeler classe, mais c'est une caste, des prolétaires, etc. Donc, tout ça fait que, dans cette période-là, en fin de compte, on va être aussi dans la notion du sauvage et du civilisé, on va entériner ça. Est-ce qu'on est en pleine colonisation, là aussi? Ça marche à plein rendement, si j'ose dire, au début du 19e. Et donc, il faut inférioriser hein, tout ça. Il faut inférioriser les autres. Évidemment, si on veut aller coloniser, il faut dire qu'ils ne sont peut-être pas aussi évolués que nous, aussi civilisés. Et tout ça va jouer beaucoup. Et de même qu'on est dans cette vision, donc... qui va être extrêmement développé chez les premiers préhistoriens, notamment avec Gabriel de Mortillier, qui est un radical socialiste, qui est un fervent défenseur de Jules Ferry, etc. Donc, c'est de montrer qu'il y a du progrès et que c'est toujours comme ça, il faut toujours aller dans le sens du progrès. Donc, l'évolution, c'est une évolution unilinéaire et progressive. C'est-à-dire que nous, en géologie, à l'époque, les archéologues, ils trouvent des couches, et bien la couche qui est en dessous, elle est toujours moins évoluée que la couche qui est au-dessus. Et ça va aller tellement loin que Gabriel de Mortimer, même, il va faire une erreur scientifique voulue, c'est-à-dire que c'est un mensonge, puisqu'il va supprimer l'Aurignacien, peu importe. C'est une culture très importante, mais qui est très évoluée, et comme ça ne plaisait pas, parce qu'elle était trop tôt dans l'histoire, et bien lui, il a supprimé. Piouf ! Bon, après, Henri Breuil, au 19e, va remettre tout ça. Au 20e, mais en tout cas, y a, voilà, on est dans, c'est vraiment, c'est une idée, c'est... Nous, c'est mieux qu'hier, mais c'est un peu moins que demain. Et donc, on est dans cette vision. Alors, forcément, quand on est dans cette vision, tout ce qui est avant nous, même si on a reconnu qu'il y avait des ancêtres, déjà, ça a pris beaucoup de temps, vous le savez. Hein, avant, il y a tous les créationnistes. D'ailleurs, ça revient, c'est très tendance en ce moment. Le créationnisme revient à grands pas. Et donc, c'était déjà difficile. Et là, d'un seul coup, avec ça, on passe de l'autre côté. Il faut absolument qu'on soit plus évolué. Donc, on va... complètement minimiser tout ce qui est sauvage et tout ce qui est préhistorique. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on va les traiter de violentes, cannibales, évidemment. Et même quand on voit les noms des premiers outils, eh ben, on a des choses qui sont avec des noms d'armes, alors que ça n'avait pas du tout l'usage. Hein, c'était juste des noms. Et puis, aussi, il y a le musée de la guerre qui, à l'époque, se fait. Quand vous pouvez le visiter, donc c'est ce qui restait dans la tête des visiteurs au 19e siècle de ce musée de la guerre, et ben, il y avait la guerre au début, c'est-à-dire qu'on commençait par montrer ces armes très anciennes, et puis après on mettait de plus en plus sophistiquées, et à côté on mettait un mannequin, alors il y avait un mannequin d'un Néandertalien, après il y avait même, je crois que ça commençait à l'Achelet, hein. Et donc, comme ça, le visiteur voyait que ça commençait là, ça finissait au canon ou je ne sais quoi. Donc, il avait l'impression que la guerre, la violence avait toujours existé depuis le fin fond des âges. Aussi, dans les romans, hein, je veux dire, les artistes, les figurations, là, j'en mets très, très peu, mais on est dans ce visage hein, de l'homme préhistorique absolument guerrier, la guerre du feu, évidemment, tous les romans préhistoriques, il n'y a que de la baston, tout le monde s'entretue, on tue tout. Là, il y a aussi beaucoup de différences hein, entre les peuples évolués et les peuples pas évolués. Voilà, donc tout ça maintient, popularise. Et on est vraiment dans cette vision que l'homme préhistorique est quand même un homme violent. Et ce qui s'est passé aussi dans ces périodes-là, c'est qu'on a, au 19e et aussi au 20e, au début 20e, qu'il y a des grandes théories qui reviennent. Et là, bien sûr, vous reconnaissez Hobbes. Et donc, on va dire, en fin de compte, la violence phylogénétique et ontologique. Voilà. Donc, comme ça, on résout le problème. Et on s'est appuyé, alors là, il y a plusieurs points forts, notamment du côté de la préhistoire. Donc, il y avait à un moment donné, a été développée une grande théorie du fait que l'homme était chasseur, se nourrissait donc de viande, et pour avoir cette viande, il tuait des animaux. Donc, c'était un homme violent, nous descendons d'un singe tueur. Et là, c'était quelque chose qui a été soutenu pendant très longtemps, au XXe siècle, et jusque dans les années 70, où là, il y a les féministes américaines, anthropologues, qui se sont un peu révoltées en disant « Oui, en fin de compte, c'est pas possible qu'on soit nés comme ça, que notre histoire ancienne soit des histoires de tueurs, parce que la chasse, c'est forcément, quand on chasse, on est forcément un tueur. » Et donc, ça a commencé à un peu secouer tout ça. Mais... je vais me permettre de reprendre les idées de Clastres et de Descola, les peuples chasseurs-cueilleurs, quand on les connaît bien, quand on les a étudiés, quand on a lu même ce qui a été rapporté par certains ethnologues sérieux, on s'aperçoit très bien que la chasse chez les peuples traditionnels, hein, la chasse de subsistance, est au contraire extrêmement ritualisée, elle est tout sauf de la violence. Donc je vous encourage à lire ces livres, parce que là, ça remet tout ça d'équerre, parce que c'est un peu du n'importe quoi. La deuxième chose, alors là, on a eu droit, alors là, c'est Freud, c'est quand même aussi quelqu'un assez terrifiant pour ça. Enfin, pour les femmes aussi, d'ailleurs, parce que le continent noir, c'est quand même pas sympathique. Et toujours est-il qu'il nous a sorti quand même, parce que c'est quelqu'un qui était passionné d'archéologie et qui collectionnait beaucoup de choses dans l'archéologie, qui avait lu Darwin et qui était tout à fait évolutionniste. Et Darwin, à un moment donné, dans son texte, celui de 71, hein, pas celui de 59, donc parle de la honte primitive pour parler des... Il en donne d'ailleurs une vision extrêmement noire, Darwin. Et là, notre ami Freud, voilà qui reprend tout ça et qui va fonder notamment le complexe d'Oedipe sur le meurtre du père. Et il vous en souvient, je pense, donc qu'au départ, il y avait un clan. Et il y avait les fils, il y avait le père, il y avait les femmes, ça c'est secondaire. Et donc le père s'approprie toutes les femmes, donc les fils commencent à en avoir ras-le-bol et commencent à s'énerver, et donc vont tuer le père. Et pour que tout soit bien partagé, ils vont le manger. Et voilà, donc après ils sont pris de remords évidemment, et c'est ainsi qu'il a créé son complexe d'Oedipe. Bref. Mais toujours est-il, voilà, et là, on a beaucoup, beaucoup discuté sur ça, sur le fait qu'il ait pris ces thèmes-là. Alors, ça ne peut pas exister, il n'y a pas une honte primitive, vous pensez bien, etc. Mais bon, ça a quand même fait aussi entériner les choses, comme quoi il y avait ça, surtout qu'il a commencé à parler de primitif intérieur, de pulsion ancestrale, là aussi, pulsion sauvage. Donc là, il nous a mis aussi un bon coup. Alors, celui qui a achevé le travail, si j'ose dire, c'est René Girard, qui, par certains côtés, est passionnant, notamment dans tout ça, on peut discuter, mais bon, je trouve que c'est très intéressant sur le côté du bouc émissaire, etc. Il y a des choses passionnantes. Mais franchement, quand il commence à parler de la violence primordiale, quelqu'un qui n'a regardé que le néolithique, déjà, et encore de loin, c'est-à-dire qu'il a regardé sans vraiment analyser, et qui, surtout, sa théorie, quand même, de cette violence primordiale, pourquoi il la donne comme ça, d'une façon gratuite, sans s'appuyer sur l'archéologie, parce que pour lui, c'est, on va dire, la société chrétienne, c'est le christianisme qui va, en fin de compte, permettre à l'homme de se détacher de cette violence primordiale. Alors, je veux dire, ça, chacun voit le Christ s'il veut, mais le problème, c'est que ça ne peut pas fonctionner quand vous partez d'une idée que vous voulez démontrer et donc vous prenez un peu les faits comme ça pour que ça rentre. Là, je crois que ce n'est pas sérieux parce que ça ne repose pas vraiment. D'ailleurs, ça a été repris par Quillet. Quillet a repris, a fait un truc sur les... je ne sais plus comment il appelait ça, la guerre, ou son livre qui est passé en poche d'ailleurs. Et tout, c'est pareil, il commence au néolithique. Et là, on ne peut pas parler de primordial, de primitif, de premier, si on commence au néolithique, où c'est déjà fini, quoi. Le néolithique, c'est le commencement de la fin. C'est-à-dire que là, c'est là que tout va commencer à changer complètement. Donc, on ne peut pas voir s'il y a vraiment cette chose ancestrale. Alors, déjà, au niveau des neurosciences, puisque ça aussi, moi, ce n'était pas ma spécialité, donc j'ai été rencontrer des gens pour voir s'il y avait le gène de la violence dans les neurones miroirs, si on voyait quelque chose. Enfin bon, j'ai été regarder un peu de tout ça. Et puis bon, rien du tout, rien du tout. Alors, bon, là, Freud, c'est pas moi, je ne suis pas du tout spécialiste, donc je ne m'aventurerai pas, mais ça a quand même été bien vu, bien analysé, avec des bonnes argumentations pour dire que c'est une vraie, et je pense que Freud serait d'accord d'ailleurs, hein, c'est une construction mentale, hein, imaginaire. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est basé sur ça. Pourquoi pas? Je pense que lui, il savait très bien que c'était peut-être pas une réalité. Voilà, il fallait pas prendre ça. Mais malheureusement, les gens, après, prennent ça pour au pied de la lettre. Et donc, ça se modifie. Ensuite, là, il y a eu quand même beaucoup de travaux, vous avez peut-être vu d'ailleurs dans la presse et tout, parce qu'on parle beaucoup des grands singes aussi en ce moment, malheureusement, parce qu'ils vont disparaître. Et donc, on a beaucoup travaillé, enfin, ils ont beaucoup travaillé sur ça, et que, et je suis assez d'accord, c'est qu'en fin de compte, je pense que c'est plutôt l'empathie et le partage qui a fait que nous sommes là. Je crois que dans un monde où il y a très peu, au niveau démographique, très peu de population, très peu de monde, il faut quand même s'entendre pour rien que la reproduction. Donc ça me paraît très important. Et ensuite, j'ai essayé de vous montrer que dans ces périodes anciennes, il n'y avait pas de raison, puisqu'il n'y avait pas de pression, de stress. Il y avait beaucoup de causes, des causes de violence qui n'existaient pas. Donc, ce n'est pas parce qu'ils étaient bisounours, parce que des fois, il y en a qui me disent « Oh, mais toi, tu es bisounours, ce n'est pas une question de bisounours. » Je veux dire, ce n'est pas qu'ils étaient mieux, c'est que la société, le système dans lequel ils étaient, l'environnement dans lequel faisait qu'il y avait moins ces stress, cette charge émotionnelle qui provoque l'irritation, voire la violence. Donc, je suis plutôt dans ces... avec ces auteurs qui montrent que c'est l'empathie, l'altruisme, il y en a déjà qui l'ont dit avant, hein, dès déjà début du XXe siècle. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui était important, et c'est plutôt ça, et d'ailleurs qui rejaillit. Alors, je n'ai pas le temps de développer, mais je l'ai fait dans mon livre et dans d'autres articles. Nous avons plusieurs preuves où on a le témoignage de l'empathie chez les hommes préhistoriques, notamment chez les Néandertaliens, que j'aime particulièrement, vous allez vous en rendre compte. Et donc, où on voit que, tout à l'heure je vous en ai placé, des blessures ont été soignées. Voilà, on a pris soin des malades. On a des preuves qu'ils ont été bien traités, soignés, même déjà avec des médicaments, on a des plantes médicinales qui ont été utilisées, etc. Et surtout, on a quelques exemples où un handicapé de naissance, par exemple, on a un hydrocéphale, on a quelqu'un qui est né avec un bras en moins. Et nous avons les squelettes de ces personnes-là qui ont vécu pour l'enfant hydrocéphale jusqu'à 6 ans, mais c'est beaucoup pour un enfant hydrocéphale, et l'adulte jusqu'à 40 ans. Donc, ça veut dire que le groupe a pris en charge ces personnes-là, et qu'à la naissance, ils ne les ont pas tués. Alors que pour un groupe qui vit de chasse de cueillette, c'est important que tous les éléments, tous les membres du clan soient quand même actifs, puissent faire des... Voilà. Et là, non, en fin de compte, on n'a pas ça. Autre chose aussi, dans les sépultures, nous avons les sépultures de tous les âges. Et nous avons à La Ferrassie, en Dordogne, une sépulture d'un fœtus. Moi, actuellement, je ne connais pas de sépulture de fœtus dans notre société. Donc, comme quoi, vous voyez, il faut faire très attention, et que là aussi, voilà. Donc, ça ne veut pas dire que, de temps en temps, ils ne se tapaient pas dessus, etc. Mais ça, c'est autre chose. Mais que cette vision, en fin de compte, de cet enracinement de la violence, etc., qui serait intrinsèque à l'homme, je ne crois pas beaucoup. Et pour terminer, c'est plutôt, si vous voulez, là, c'est une réflexion aussi qu'on pourra tout à l'heure, dont on pourra débattre, c'est en fin de compte, là aussi, ce qui était impressionnant pour moi, c'est de voir que quand il y avait ces traces de violence très anciennes, c'est soit dans un moment un peu de sacrifice, on a l'impression que c'est un sacrifice, soit qu'on le mange ou qu'on le mange pas, c'est secondaire, hein, je veux dire, c'est de tuer qui compte, c'est pas le manger, une fois qu'il est mort, on peut le manger. Mais donc c'est de voir que c'était dans des contextes comme ça très particuliers, et peut-être que ces violences donc sur une personne, sur un individu, et pas les violences de masse qu'on va voir après, c'est comme si nous avions besoin de nous rassurer quelque part. Alors, je m'explique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, peut-être qu'une fois que... quand l'homme était un peu heureux, quand l'homme est devenu homme, avec une conscience, avec des problèmes, eh bien, il s'est sûrement questionné. Et face à l'impensable, à l'inexplicable, Notamment, voilà, pourquoi d'un seul coup quelqu'un meurt, pourquoi il y a des orages, pourquoi d'un seul coup le gibier n'est plus là, pourquoi je ne sais quoi. Bref, trouver des réponses à ces questions, essayer d'expliquer, enrayer un phénomène, parce que je pense qu'il y a eu des épidémies, comme tout à chacun, il y a eu des tas de problèmes, et tout, il faut trouver des éléments de réponse. Et je pense que très tôt, il y avait donc ces esprits, ces divinités, je ne sais pas quel est le terme. Voilà, je pense que c'est plutôt du style animiste. Hein, je pense que c'est voilà, quoi, des esprits, des choses. Et ben, on va. Qu'est-ce qui est le plus fort? Qu'est-ce qui, et ben, c'est sacrifier un des nôtres. Et que ça a été, à mon avis, c'était plus ce type de violence liée à cet acte sacrificiel, à cette, pour répondre à ces peurs, etc., à ces questionnements. Que pour aller voler, pour aller prendre. Alors, le rapte des femmes, j'en ai pas parlé là, ça me tape sur les nerfs, ça m'énerve. Parce que le rapte des femmes, ça aussi, c'est une vision complètement du 19e siècle. Et donc, c'est ça qui est vraiment passionnant dans ça, c'est de voir que c'est quelque chose de peut-être plus complexe, qui est vraiment au profond de nous, c'est-à-dire essayer de comprendre. Et quand on ne comprend pas, quand on. Voilà. Pour survivre, il y a peut-être eu, c'est à débattre, hein, c'est à débattre, c'est des choses qu'on peut discuter, mais moi en tout cas ce qui m'a frappé c'était ça, c'est-à-dire que là on est plutôt dans des choses plutôt rituelles et plutôt de sacrifice. Alors pour finir, c'est un peu la vision, c'est pour détendre l'atmosphère, et donc voilà, les deux visions, hein, vous savez, les chimpanzés, j'aime beaucoup les grands singes, les chimpanzés, c'est patriarcal, vous voyez, c'est le mâle alpha, tout ça, et eux, ils sont plutôt un peu plus agressifs, etc. Puis l'autre côté, nous avons avec le même peu de distance génétique, hein, chimpanzés, bonobos, et nous, c'est quasiment les mêmes, très peu de distance génétique. Donc nous avons nos cousins et bonobos. Et alors eux, les chimpanzés, eux, ils sont très virils, hein, boum, boum, ça se rentre un peu dedans, ça mord et tout, ça fait, ça, voilà. Alors que les bonobos, pour arranger ça, donc c'est matriarcat. Matriarcal comme système, et alors là, quand c'est un conflit, ben, au lieu d'aller taper l'autre, on va lui faire un bisou. Donc voilà, donc ça c'est le système bonobo, et je vous assure c'est vrai, là, ça ne plaisante pas du tout, il y a plein de reportages. Et donc c'est-à-dire que, plus sérieusement, c'est deux systèmes pour résoudre les problèmes. Donc comme quoi, on peut toujours choisir son camp, vous voyez, vous avez le choix, plutôt mâle alpha et un peu viril, ou sinon on prend le système bonobo, ça marche très très bien, il y a très peu de conflits. Et donc, je finis sur ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je pense que nous, la vision de ce côté du passé, à la fois violent, etc., et l'autre côté où on, des fois, certains sont tombés aussi, surtout actuellement, il y a une espèce de retour à une vision un peu aussi idyllique. Je crois que, voilà, quelque part, je pense que la vérité est peut-être quelque part entre les deux. Voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup.